Bienvenue au micro rouge des passionnariats. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une entrepreneure engagée et une voix visionnaire de l'impact social, Céline Masse. Sociologue, experte en data et communication internationale, Céline Masse est une force intellectuelle polyvalente, intervenant régulièrement dans les médias et enseignant dans des institutions prestigieuses telles que l'ESSEC et le CELSA. Céline est la fondatrice du projet Love for Livre et du réseau de conseil Return for Society. Selon moi, elle incarne la fusion entre entrepreneuriat et engagement social. Céline Masse est engagée pour les droits des femmes depuis plus de 15 ans et est présidente du comité ONU Femmes France. Elle est spécialiste émérite des questions prospectives et de l'évaluation des politiques publiques. Elle a également marqué les esprits avec ses essais professionnels et son roman poignant sur le burn-out, Le jour où Maya s'est révélée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de plonger dans son univers fascinant pour discuter de la puissance des lettres et de la littérature. Merci beaucoup d'être là, Céline.
Merci Adeline pour ton invitation. Je suis ravie. Bonjour à toutes et tous.
Céline, est-ce que les lettres sont selon toi une arme pour combattre les inégalités et les maux du monde ?
Ah oui, alors plus que les lettres, les histoires, parce qu'on est tous et toutes faits d'histoire, on a été pétris par une histoire, disons, depuis nos premiers sons, depuis notre naissance, celle de nos parents, celle de nos grands-parents, celle du monde qui nous entoure. Et je crois que lire des histoires, découvrir des histoires dans lesquelles on n'est pas jugé, c'est ça la force de la littérature, c'est que le roman ne nous dit pas ce qu'il faut faire, il nous montre des possibilités. Ça aide énormément à mieux comprendre le monde. Et quand on le comprend mieux, quand on en comprend la complexité, quand on s'aventure finalement dans des chemins qui ne seront peut-être jamais les nôtres, parce que lire, c'est vivre d'autres vies que la nôtre, on ouvre grand son esprit. Et je pense que c'est une force extraordinaire pour refuser le statu quo et essayer de changer un peu le monde.
Absolument, mais comme je te comprends, il y a plein de choses qui résonnent en t'écoutant. Quel est le premier livre qui a changé ta vie ?
Je pense que c'est celui dont je me souviens le plus, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Alors j'ai lu, moi je lisais beaucoup quand j'étais enfant, j'avais même un petit problème, mes parents se disaient elle a un vrai problème psychologique, parce que quand je partais en vacances par exemple, ou même très près de chez moi, je passais mon temps le nez dans mon livre, et donc ma famille me disait mais regarde autour de toi, je trouvais la littérature plus intéressante que la vie à certains moments, donc ça questionnait ma famille. Mais le livre qui a vraiment marqué ma jeunesse et vraiment qui m'a transpercé, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, parce que c'est un livre très connu, et Kundera est mort d'ailleurs il n'y a pas oui. si longtemps. C'est un immense écrivain, et en fait c'est un livre dont chaque mot est pesé soigneusement. Il a une écriture au scalpel, mais qui n'est pas dans la sensiblerie, qui est vraiment dans la précision. Il arrive aussi à faire valoir dans ce livre ce que je disais auparavant, c'est que au fond, je ne sais pas si tu te souviens de ce chapitre qui s'appelle Les mots incompris, et tu as Sabrina et Thomas. Et en fait, ces deux personnages vont décrire la manière dont chacun comprend les mêmes mots. Il y a la femme, la musique notamment. Et je trouve que c'est vraiment une métaphore de la vie, parce que dans la vie, nous utilisons les mêmes mots, mais nous ne mettons pas derrière les mêmes réalités. Et de cette distance naît beaucoup d'écarts, et naissent aussi parfois des dissensions. Et du coup, je trouve que c'est un livre majestueux. Puis c'est un livre sur le communisme, c'est un livre sur l'amour, ouais. c'est un livre sur la trahison, c'est un livre sur toutes ces vies que nous n'aurons pas, mais dont nous rêvons. Et c'est un livre très profond, en fait. Et donc, ça a vraiment changé ma vie, ouais.
Et alors, est-ce que ce livre a déclenché la passion des lettres ? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, tiens, je voudrais en faire mon métier, je voudrais moi aussi écrire ? Comment s'est développée ta passion pour qu'elle arrive à prendre autant de place dans ta vie aujourd'hui d'entrepreneur ?
Lentement, parce que en fait, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai toujours su que je voulais écrire, mais je ne m'y autorisais pas, parce que je ne viens pas d'une famille dans laquelle, justement, les lettres ont une place privilégiée, ou dans un milieu, disons, social, où on se dit que c'est naturel de devenir écrivain. Écrivain, c'est un, entre guillemets, c'est un métier hobby, c'est un métier pour une certaine catégorie de personnes, en tout cas dans cette vision-là. Et donc, je ne peux pas dire que je me sois dit très tôt que j'allais y arriver, mais en fait, c'était quelque chose de viscéral, c'est-à-dire que je me souviens avoir fait plusieurs concours d'écriture adolescente et les avoir tous gagnés.
Wow.
Et je me souviens d'un concours, d'ailleurs, au lycée qui m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, la nouvelle que j'avais écrite s'appelait L'autre. C'était l'histoire d'un miroir, et en fait j'avais gagné un bon d'achat, mais énorme pour moi à l'époque, avec mes moyens, disons, dans la grande librairie de la ville dont je vivais,
wow.
qui s'appelle Montpellier, c'était la librairie Soran. Rams.
Ah, mais j'ai grandi à Montpellier, c'est absolument extraordinaire.
Ah, bah voilà.
Ah, bah donc, oui, Rams, évidemment.
Voilà, donc j'ai passé une après-midi avec ma maman, je me souviens, toute petite, avec ce bon d'achat énorme, parce que j'ai pu acheter, je sais pas, peut-être une centaine de livres. Et c'était absolument merveilleux. Mais ça ne m'autorisait pas nécessairement à devenir écrivain. Donc je pense que j'ai longtemps cheminé, j'ai longtemps erré, mais avec quand même quelque chose de viscéral. Et quand vous portez en vous une passion, quand elle est profonde, quand elle résiste en fait au temps et aux épreuves et à ce que vous vivez, à un moment donné, vous vous y abandonnez. Et finalement, je me suis abandonnée à la passion de l'écriture. Et c'est vrai qu'après, des rencontres aussi plus tard, et puis une forme d'assertivité qui s'est déclenchée, m'ont fait dire qu'en fait, bien sûr, j'allais écrire et que maintenant, j'ai envie de même écrire encore plus dans les années à venir, clairement.
Génial. Alors du coup, on va revenir quand même sur ce parcours. En plus, c'est quand même fabuleux. J'apprends que tu as grandi à Montpellier. Moi, j'ai grandi à Montpellier, j'ai quitté Montpellier pour Toulouse, j'avais 18 ans.
Comme moi.
J'ai passé mon bac au lycée Jean Monnet en L.
Moi, pareil.
En spécialité Histoire des Arts.
Ah, déjà. Tu étais déjà dans le... Moi, c'était le littéraire langue, je crois.
À Jean Monnet aussi.
À Jean Monnet.
Non, mais c'est extraordinaire. C'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ton parcours professionnel après ce moment-là ? Moi, pareil, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. J'ai grandi dans une famille modeste où il n'y avait pas eu d'études. Donc, ça a été quoi les élans par la suite jusqu'à ta vie d'entrepreneur aujourd'hui ?
Bah, ça n'a pas été évident. Un peu comme ce que je l'expliquais au sujet de l'écriture, c'est que l'entrepreneuriat c'est quand même vu dans un milieu modeste comme étant une forme de luxe où on vous dit, où on vous fait comprendre, parce que tu sais, induire, c'est parfois aussi profond, ça rentre profondément en toi, les choses s'infiltrent en toi, on te dit sans capital de départ, c'est quand même compliqué. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, ouais, c'était pas du tout la voie vers laquelle je me destinais. Moi, je me destinais vers une voie entre guillemets sécurisante. Donc j'ai commencé dans le conseil, j'ai fait de longues études. Et les études, c'était quelque chose que j'adorais apprendre. Et c'est vrai que souvent, les gens associent les études longues à une sorte d'envie d'avoir des diplômes, de les accumuler. Moi, c'était absolument pas le cas. Moi, ce que je voulais, c'était apprendre. En fait, j'adorais apprendre, et toujours encore aujourd'hui, j'adore apprendre. C'est un de mes moteurs. Et donc, j'ai fait des études, ça a très bien marché. Ensuite, le conseil, puisque le conseil, c'était, on va dire... Déjà, j'aime assez la posture du conseil. C'est-à-dire que j'aime bien être quelqu'un qui est un peu, parfois, dans l'ombre. Tu vois, paradoxalement, avec tout ce que je fais, ça ne donne pas cette impression. Et pourtant, j'aime bien ça. J'aime bien la lecture. Donc, j'aime le silence, j'aime l'intériorité, j'aime la solitude, j'aime les bibliothèques, tu vois l'ambiance.
Oui, je vois.
Donc, du coup, le conseil me convenait bien. Et j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, voire un peu plus. Mais au fond de moi, j'avais toujours une part qui voulait s'échapper. Et donc, en même temps, j'étais agent littéraire, en même temps, j'écrivais des critiques littéraires, en même temps, je faisais du théâtre, je mettais en scène. C'était plus fort que moi. Je ne peux pas vivre normalement sans avoir cette part dans ma vie. Aujourd'hui, je l'ai acceptée, c'est impossible autrement.
On appelle ça la multipotentialité, je crois aussi.
Peut-être, peut-être. Mais tu sais, la multipotentialité, c'est bien, et en même temps, ça peut être un piège, parce que... On peut faire plein de choses dans la vie. On est tous, enfin, tous et toutes, on peut faire plusieurs choses dans la vie. Parce qu'en travaillant, en y mettant de l'effort, de l'abnégation, on peut y arriver. Mais après, quand on a l'embarras du choix, parfois on garde l'embarras. On ne sait pas trop dans quelle direction se tourner. Et surtout, on est tellement tamisé et filtré par les désirs des autres. Et moi, ce que je trouve très difficile, finalement, c'est de trouver sa place. Sa place, c'est qu'est-ce qu'on est profondément en tant qu'être humain ? Comment vit-on en dehors des désirs des autres ? Comment les désirs des autres, tu vois, ne nous déterminent pas ? C'est quelque chose de difficile, de compliqué, je trouve, pour une femme particulièrement. Et pour moi, ça a pris une bonne vingtaine d'années.
D'accord.
Un peu moins, peut-être.
C'est drôle parce que quand on regarde ton parcours et tout ce que tu fais, je le décrivais un petit peu dans l'introduction, on aurait tendance à se dire Céline, elle s'est connectée tout de suite à elle et à ce qui la faisait vibrer, elle a tout de suite trouvé sa voix et ce qui l'anime pour ensuite le concrétiser dans le monde professionnel en plus de ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a tes engagements, tes convictions, on va en parler juste après, que tu as su en plus matérialiser concrètement dans une entreprise, dans tes engagements politiques, sociaux, à travers des différentes organisations. Donc c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'on a l'impression que tu n'as jamais écouté personne, ou en tout cas qu'il n'y avait aucun poids qui pesait sur toi, parce que ton parcours semble tellement incarné.
Oui, il est peut-être un peu atypique. Je crois que Non, c'était pas vraiment des poids que je ressentais, mais c'était plus des doutes en fait. En même temps, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Le doute me nourrit, le doute est très fécond et très matriciel chez moi. Mais disons que je savais pas comment j'allais faire le pont, le lien entre tout ça. Et en même temps, ce qui me guidait beaucoup toujours, c'est, j'en souris souvent parce que je raconte souvent cette histoire. Moi, le personnage qui m'a toujours marqué dans la vie, c'est Robin des Bois. Donc, dans ma famille, on m'appelait Robin des Bois. C'était une petite blague parce que moi, ce que je disais toujours à mes parents, même petites, c'est « Tu vois, moi, je peux aller de la forêt de Sherwood au roi Jean, enfin l'usurpateur, pour faire passer des pouvoirs d'un endroit à l'autre. » Et donc, je pense que ce qui me meut dans la vie et ce qui a été la ligne, le fil conducteur de tout ça, c'est cette idée de donner des chances aux autres. C'est-à-dire que tout ce que j'essaie d'apprendre, tout ce que j'essaie de trouver dans la vie, j'essaie de le partager, d'une manière ou d'une autre. Et mes voies de partage, pour moi, c'est l'engagement social, sociétal, et la littérature et l'art. Voilà. Ça, c'est ces deux sujets, c'est ces deux médiums dans lesquels je suis dans mon énergie, dans ma joie, dans ma nature, en fait. C'est ça qui est naturel chez moi. Et je crois que c'est comme ça que je pourrais résumer ce chemin.
C'est trop beau. Je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis, ça me touche beaucoup. Est-ce que tu peux, Céline, nous raconter les histoires de Love for Livre et de Written for Society?
Yes. Écoute, Love for Livre, c'est vieux comme le monde dans mon cœur, parce que ça fait très longtemps que je voulais lancer Love for Livre, mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire, en fait. Ce que je voulais, c'est créer un projet qui permette aux gens de lire, qui donne envie de lire, notamment des gens éloignés de la lecture. Mais il y a plein de façons de le faire. Donc j'ai vraiment beaucoup tâtonné avec Omar, mon associé, on a énormément tâtonné, et on a fini par stabiliser quelque chose en 2019-2020. On a lancé le projet et donc on s'est dit, ce qu'on veut, c'est innover. Voilà, on veut pas faire ce que d'autres font, ce que d'autres font très bien. Nous, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire innover, mélanger les genres, mélanger les cultures. Ça, c'est notre truc, hybrider les choses. Et donc, on a lancé Love for Livre, qui fait trois choses, qui est un site gratuit, allez-y, de recherche de livres par les émotions pour toutes et tous, avec de l'IA et aussi beaucoup d'humains dans l'algorithme. On a des ateliers de bibliothérapie où les gens viennent et à travers le livre, la lecture, la littérature et les sciences cognitives travaillent une problématique de vie. On fait ça aussi en entreprise autour de la formation soft skills. Et puis on a des bibliothèques physiques qu'on appelle les bibliothèques aux émotions ou des émotions, ou avec d'autres thèmes, où en fait on va classer les livres en fonction d'un thème d'une manière très inattendue. Parce que ce qu'on veut, c'est créer autour de la bibliothèque un endroit, tu vois, de joie, de surprise, un endroit où les gens ont envie d'aller parce qu'ils se sentent à l'aise et ils ont envie d'explorer les livres. Ça, c'est notre obsession. Et puis après, Return for Society. Alors ça, c'est un projet beaucoup plus classique. Disons que c'est un peu la suite de ma vie dans le conseil, mais dédié à deux sujets, la mesure d'impact social, parce que ça m'intéresse beaucoup intellectuellement, de mesurer comment est-ce qu'on crée de l'impact, qu'est-ce que l'impact, quels sont les indicateurs, et puis un peu de conseil en communication responsable. Mais en vérité, ces deux projets qui paraissent assez éloignés, mais ils sont assez liés, parce que d'un côté, finalement, c'est atteindre l'impact à travers la littérature, et de l'autre, c'est être plus une technicienne de l'impact, ce que j'étais auparavant et ce que j'ai développé à travers mes engagements bénévoles. Et donc, c'est des projets qui, souvent, finalement, dialoguent. Parce que quand on a un programme pour Love for Livre, bah, il faut mesurer l'impact. Alors, c'est pas moi qui le fais, tu imagines bien, je suis pas jugée partie. Mais néanmoins, je comprends les mécaniques qui me permettent de dire, si on fait ça, on va toucher des gens, on va réussir à changer la donne. Et ça m'intéresse vraiment. J'aime l'action qui marche, je le dis souvent. La vie est courte, moi je sais quelle est ma mission de vie, je l'ai dit tout à l'heure, je crois le savoir, et donc j'ai envie que dans les années qui viennent, et la vie passe très vite, bah, je fasse des choses qui aient du sens pour des gens et qui puissent apporter à des gens. Modestement, parce que je le fais à mon échelle, évidemment.
Donc Love for Livre, c'est pouvoir ouvrir la porte de la bibliothèque à celles et ceux qui n'avaient pas le réflexe peut-être d'aller vers les livres, et de le faire avec une forme d'intuitivité autour des émotions. C'est être guidé vers les livres autrement.
Exactement. On pourrait résumer ça en une phrase, c'est lire pour mieux vivre pour tous les publics à travers des innovations. Et notamment la question des émotions, et c'est vraiment changer le regard sur le livre, parce qu'aujourd'hui le livre est vu comme un objet. Tu sais qu'il y a eu un décrochage de la lecture classique. Évidemment, on lit plus que jamais sur nos écrans, mais le résultat, on le sait bien, va créer énormément de déficiences, même dans les années à venir. On va avoir des sujets de santé publique colossaux autour de ça, qui vont sortir, qui vont être étayés. Là, on n'est qu'au début. Hein. Et donc, l'idée, c'est de se dire, le livre, en fait, c'est un objet qui est un peu impressionnant encore. Il y a plein de gens qui n'osent pas rentrer dans une librairie, hein, faut le savoir.
Ah oui, c'est vrai, comme dans les galeries d'art, ils ont peur que ce soit pas pour eux.
Bah, parce que la librairie, c'est... on a l'impression que c'est un monde d'initiés. Tu rentres, tu as énormément de références. Alors, les libraires sont des gens généralement charmants et qui sont de très bons conseils. Mais imaginons que tu ne sois jamais allé dans une librairie parce que, jeune, tu n'y allais pas, c'est pas l'habitude familiale. À l'école, les livres étaient commandés. Un jour, tu décides d'aller dans une librairie, mais tu ne connais pas tous les titres à part les grands classiques. Et tu peux te sentir vite débordé. Donc, il y a aussi cette idée de dire non, le livre appartient à tout le monde. Le livre, tu sais, quand tu vas sur des terrains de guerre, tu as quelque chose qu'on appelle le cercle magique. C'est-à-dire que tu vois ces images, peut-être que tu en as vu en Syrie, tu as des gens, ou en Ukraine, tu as des gens qui se mettent autour du piano et tout de suite, le temps s'arrête. Le temps est suspendu. Parce que justement, l'art, la beauté qui fait irruption sur une scène de saccage, ça a cette capacité à refaire humanité. Bah, le livre, c'est pareil. En fait, lire une histoire, lire ensemble, lire à voix haute, raconter des histoires, c'est un profond signe d'humanité. Et quand tu peux redonner aux gens cette conviction qu'au fond, peu importe du milieu social, d'où qu'ils viennent, peu importe ce qu'ils ont envie de lire, moi, j'ai aucune condescendance. Je déteste le mépris. C'est quelque chose que je déteste. Je déteste le cynisme et le mépris. Dire, mais oui, mais il lit ça, donc c'est nul.
Mais c'est pas de la littérature.
Mais qui peut dire ça, en fait ?
Des tas de gens.
Qui peut même se sentir suffisamment, riche intellectuellement, humainement, pour dire une chose pareille ? Je trouve que c'est profondément idiot. Et donc, ce qui compte, c'est que les gens lisent, qu'ils lisent ce qu'ils ont envie de lire. Et puis, tu sais, c'est comme la cuisine. Tu commences gourmand. Et tu finis gourmet, parce qu'à force de manger des choses délicieuses, tu dis « Ah, il y a peut-être mieux », et puis un jour, tu finiras par lire Shakespeare. C'est ça, mon pari. Et je suis sûre que tout le monde peut en être capable.
Oui, tu démocratises aussi, finalement, à travers ce projet, la lecture, et tu combats, comme tu dis, un peu le mépris social qu'il y a parfois derrière la lecture, hein, mais... Vous lisez
absolument.
Ça, mais tu n'as pas lu ça encore. C'est vrai que c'est fréquent dans le monde, en tout cas, un peu parisianiste.
C'est ça.
On sent ça, effectivement.
Et ça, alors oui, et ça a un petit peu changé quand même. J'ai l'impression que malgré tout, comme les jeunes, il y a quand même cet enjeu de réseaux sociaux et tout ça, il y a quand même l'idée que, au fond, qu'ils lisent un grand chef-d'œuvre ou qu'ils lisent un livre un peu plus mainstream, on va dire, tant mieux s'ils lisent. Et moi, c'est ça que je défends. Je dis tant pis, quel que soit le livre que vous avez, mais ayez un livre à la main. Et moi-même, d'ailleurs, je suis très éclectique dans mes goûts. Je peux lire des choses très, très simples, très populaires et beaucoup appréciées, comme je peux lire des choses très érudites, très complexes et beaucoup appréciées. Et je pense qu'encore une fois, c'est un chemin, on en vient là. Ce qui compte, c'est la rencontre avec le livre, la rencontre avec l'histoire et l'émotion que le livre fait naître en nous. Moi, c'est ça que je défends et ce en quoi je crois.
Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour celles et ceux qui n'arrivent plus à lire ?
Oui, j'en ai un très simple qui est prôné par Love for Live, coucou à l'équipe d'ailleurs, c'est lire 6 minutes par jour, parce que 6 minutes par jour, c'est le temps qu'il faut, selon une étude référentielle d'Oxford, enfin de Sussex, pour faire baisser le stress de 68%. Le livre, c'est l'activité la plus délassante qui existe. Mieux que la musique, mieux qu'une tasse de thé, mieux qu'une balade, pour citer l'étude. Et donc, si tu lis 6 minutes, c'est rien 6 minutes.
Ouais, c'est vrai, ça.
Personne en ligne qui nous écoute ne pourra me dire que vous ne trouvez pas 6 minutes dans votre vie pour
c'est
lire.
Vrai.
Juste se plonger dans un texte, n'importe quel texte, pas sur écran si possible, un papier, 6 minutes par jour. Et là, au bout d'un moment, vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Merci, c'est un conseil extrêmement concret. Je voudrais qu'on parle, Céline, maintenant de tes engagements en faveur des femmes et de l'égalité et de la lutte aussi contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que c'est tes engagements par rapport aux femmes ? Quel est ton rôle au sein du comité ONU Femmes France et comment c'est arrivé aussi dans ta vie ?
C'est arrivé depuis longtemps, c'est arrivé à 18 ans. Donc j'étais à Sciences Po, donc je venais d'arriver à Paris et j'étais à Sciences Po pour une conférence de Samira Bellil, qui est une fille qui a écrit dans L'Enfer des Tournantes. Donc c'est une fille qui racontait pour la première fois donc, le viol collectif dont elle avait été victime, qui est décédée d'ailleurs il y a quelques années, assez jeune. Et donc je rencontre Samira Bellil et je suis frappée par cette femme Et auparavant, je m'étais déjà un peu interrogée sur le fait d'être femme et homme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change dans la société, ou dans ta position dans la société, mais peut-être pas aussi profondément. Et là, je prends une grosse claque. Vraiment, je suis subjuguée par l'authenticité de cette femme, je suis subjuguée par sa... par son émotion, je suis subjuguée par son courage, parce qu'elle dit des choses en bout de mie, donc c'est le grand amphi à Sciences Po devant des gens très bien éduqués. Elle dit des choses hyper crues, hyper vraies, hyper justes, et ça me touche, et donc je vais la voir, et c'est comme ça qu'a commencé finalement mon engagement, et je pense à elle aujourd'hui. Chaque fois je parle d'elle parce que c'est quelqu'un que je trouvais extraordinaire et très courageuse, et le courage c'est une valeur qui se perd et qu'elle avait vraiment, et donc je commence là à m'engager. Donc je me suis engagée dans plein de structures différentes, en Espagne, en France, et puis en 2016, c'était en 2016, donc on m'a appelée pour, on m'a proposé de devenir donc membre du bureau d'ONU Femmes France. Moi ça m'intéressait beaucoup parce que je suis très férue d'international, je suis entourée quasiment que d'étrangers dans ma vie privée, voilà, que ce soit ma famille très proche, ma mère est aussi d'origine étrangère, je m'entends très bien avec les étrangers, j'aime bien les contextes internationaux, je me trouve toujours à l'aise en fait, j'aime bien ce mélange, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, hein, tu vois. Et donc ONU Femmes, ça m'intéressait parce que c'est international, donc forcément tout de suite on rentre dans des dimensions de rencontres avec d'autres, de compréhension de la géopolitique, donc extraordinaire, je me dis oui super, donc j'y vais, puis bah, ça fait maintenant depuis 2016 que je suis bénévole, toujours bénévole, et après on m'a proposé, donc moi je n'ai rien demandé, c'est vrai, parce que c'est pas mon... Moi je suis pas là pour prendre un poste en fait, moi je suis... Enfin, Foucault disait le 21e siècle ça sera plus celui des positions mais des trajectoires, moi je suis mon étoile, j'ai mes valeurs, je ne transige pas avec mes valeurs, je suis pas prête à tout pour réussir, moi mes valeurs sont plus importantes, mais après voilà, il se trouve que quand on défend des choses, quand on travaille, je bosse beaucoup, je connais mes sujets, j'aime bien aller au fond des choses, donc forcément au bout d'un moment bah, on me dit est-ce que tu veux devenir présidente, enfin forcément, en tout cas j'étais une des personnes susceptibles d'eux, et je me suis interrogée pour être honnête, parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite ? Tu sais, moi, le pouvoir, entre guillemets, hein, ne me fait pas tourner la tête. Moi, je suis pas quelqu'un qui va... C'est impossible de me faire tourner la tête par le pouvoir. Moi, je vais toujours mettre ma réflexion, mes valeurs, ma famille, mon cœur en avant. Et c'est vrai. Et donc, c'est pas que je suis incorruptible, c'est un grand mot, mais... Je suis pas quelqu'un qu'on va faire, tu vois, on va faire tournoyer comme ça, en disant, et si tu... C'est pas mon truc. Et donc du coup je me dis en fait j'aimerais bien faire ça parce que si je peux aider à porter la voix de la cause, alors je dois le faire. Si ma mission de vie c'est vraiment ce que j'ai décrit tout à l'heure et si je suis cohérente par rapport à ça, quelles que soient moi mes émotions personnelles, qui suis très bien dans une bibliothèque discrètement connue de personnes et lire mon livre si je caricature, mais si j'ai le moyen de sortir de cette bibliothèque et à un moment donné de changer des choses pour des gens, alors je dois le faire. C'est pour ça que j'ai accepté et que j'ai été élue, donc ça fait maintenant des années et c'est une belle cause. Et voilà, les femmes ça me touche, elles sont énormément dépréciées, l'inégalité c'est vraiment un sujet, l'égalité elle n'est pas encore réelle en France et dans le monde, ouais. Les femmes et les enfants sont les plus grosses victimes des prédations et moi ça m'insurge, ça me met en tension, ouais. Voire en colère, et donc je dois m'engager.
Bravo pour cet engagement. Est-ce que tu veux nous partager des actualités, que ce soit autour de Love for Livre, que ce soit autour de Return for Society, qu'est-ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager, et aussi peut-être par rapport à ONU Femmes France et du comité que tu présides, est-ce qu'il y a des actualités que tu veux mettre en lumière ou quoi?
C'est très gentil. Return for Society, pas forcément, parce que c'est des sujets de mesure d'impact dont je parle pas toujours, mais en tout cas on communique très peu chez Return for Society, mais ça continue. Si vous avez des sujets de mesure d'impact, des questions, je suis ravie d'y répondre. Love for Livre, oui, on a une newsletter, c'est ce que je partagerai, où là vous pouvez suivre vraiment en détail tout ce qu'on fait, nos formations, on a beaucoup de formations en cours, on a une sensibilisation à la bibliothérapie le 22 mars matin, qui est très accessible, une matinée. Il y a plein de choses en cours et il y a un livre qui va sortir autour des livres cette année en octobre, donc ça je peux pas en dire plus encore, mais c'est la première fois que j'en parle, donc tu vois, wow. Voilà, donc qui sera un peu qui illustrera un peu ce qu'on fait dans le monde du travail, on va dire, avec Love for Livre, donc je suis très contente de ce projet, donc j'écris en ce moment et ça me fait très plaisir, je dois vous le dire. Et puis ONU Femmes, bah, il y a le 8 mars qui arrive, donc évidemment le 8 mars, ça ne doit pas être la seule année de l'année la seule journée pardon, de l'année dans laquelle on s'engage, parce que le besoin est immense. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est si ce sujet vous mobilise, si ce sujet vous touche d'une manière ou d'une autre, sachez que vous avez le pouvoir de changer quelque chose. Parce que c'est parce qu'on est toutes et tous, j'appelle aussi les garçons, les hommes, à faire même une toute petite chose sur ce sujet qu'on va changer la donne. Et je crois beaucoup au pouvoir citoyen. On vit dans un monde très dur, les fractures sont immenses, la géopolitique en ce moment est très mal menée, on le voit bien, les tensions identitaires remontent, l'extrémisme remonte dans tous les domaines. Donc on vit dans un monde difficile, mais on a tous et toutes le pouvoir de changer quelque chose. Et ça, je voudrais le dire. Que ce soit sur l'égalité ou sur d'autres sujets, engageons-nous, engagez-vous dans les causes qui vous tiennent à cœur.
Tu dois aimer cette philosophie, finalement, du colibri qui est très partagée, où chaque monde peut être changé si un petit pas, même tout petit, une petite goutte, est faite par un homme, une femme qui fait circuler l'information, qui sensibilise, qui reprend son voisin, qui ose prendre la parole sur n'importe quel sujet pour vaincre une inégalité, pour mener son combat. Donc,
Absolument. Je crois beaucoup au pouvoir des anonymes, en fait. Je crois beaucoup au pouvoir des invisibles. Évidemment que je respecte aussi le pouvoir politique au plus haut niveau, et je pense que c'est indispensable d'avoir des grands décideurs ou décideuses qui sont là, qui font avancer les sujets au plan international. Bien sûr qu'on en a besoin. Je suis absolument pas, de ce point de vue-là, rigide. Ou vraiment, j'y crois aussi. Mais je pense sincèrement que les citoyens, dans leur vie quotidienne, ont un pouvoir et qu'on peut s'en saisir.
C'est bien et beau de le rappeler, parce qu'on a souvent tendance, en tant que citoyen, à se sentir hyper impuissant et impuissante. Et on se dit que c'est en allant voter, en allant militer, ou en allant manifester dans la rue, que notre voix, là, peut être entendue. Mais quand tu exposes ce point de vue, aujourd'hui, au micro rouge, tu rappelles, en fait, que non, notre participation, elle est bien supérieure. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est en dézoomant et en essayant de le faire chaque jour, ce petit pas et cette petite goutte du colibri, que finalement ça a un impact. Merci pour ce rappel.
Avec plaisir.
Alors on va aussi rappeler, Céline, que la Céline adulte aujourd'hui est écrivaine, et que l'enfant qui pensait ne pas pouvoir faire ce métier, cette activité, est bien loin, même si elle doit être encore quelque part. Est-ce que tu peux nous parler de ton roman « Le jour où Maya s'est révélée », Céline ?
C'est relevé.
Ah, c'est révélé.
Alors, en même temps, ton...
Relevé. Ah oui, j'ai dit révélé. C'est vrai, j'ai fait un lapsus. Parce qu'il y a écrit « relevé » hein, sur ma feuille. Hein. Et j'ai dit « révélé » deux fois, d'ailleurs, non ?
Absolument, mais tu sais, c'est intéressant quand même que tu aies dit cela, parce qu'en en fait, elle se révèle en se réveillant ou en se relevant.
Oui.
Donc oui, c'est un roman auquel je tiens beaucoup, que j'ai écrit en 2019, enfin, qui a été publié en 2019, j'ai écrit avant, bien sûr. Et ce que je voulais faire, c'était explorer le monde du travail. Et je me suis dit, en fait, dans le monde du travail, le sujet de l'épuisement, du burn-out, faisait quand même beaucoup parler de lui à l'époque, et encore plus aujourd'hui. Et je me suis dit, en revanche, je n'ai pas vécu de burn-out, donc comment je vais faire pour comprendre de l'intérieur, tu sais, pour faire une sorte de reportage in vivo de ce qu'est le burn-out. La meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de faire des interviews. Donc j'ai rencontré 50 personnes que j'ai interviewées, comme tu le fais là, mais sans les enregistrer, bien sûr. Très différents, hein. Ça va du serrurier, de l'aide-soignante, chef d'entreprise,
instituteur. Ah oui, tous les corps de médecins employés.
Tous les corps. J'ai fait le tour de France, un peu par des contacts au début, puis ça c'est ensuite le fil, j'ai tiré sur le fil. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu la matière pour comprendre ce qu'était un burn-out. J'ai vécu des moments bouleversants, des gens qui s'écroulaient, qui vraiment me racontaient leur traumatisme. Le burn-out, ça peut être physiquement très très grave, hein. Tu peux perdre une partie de ta mémoire, tu peux perdre ta mobilité. Généralement, ça frappe le dos. Donc tu restes souvent au début, on dit que les burn-outés, entre guillemets, restent au lit, parce que ça frappe souvent le dos quand même. Donc on est pétrifié, on est consumé, en fait, comme le mot l'indique, sachant que c'est un vieux terme, hein, ça date des années 1969 précisément, mais ça a été aussi utilisé par Shakespeare, enfin bref, et par d'autres, Graham Greene. Et donc j'ai écrit ce livre, ce roman, avec toute l'écoute que j'avais pu investir par ces rencontres. Et en fait, en 2019, j'ai eu énormément de messages quand il est sorti. Beaucoup, beaucoup de gens qui me disaient « Merci, vous avez mis des mots sur ce que je vivais. Vous m'avez donné une forme de lumière quand même, parce que c'est un roman qui est assez positif malgré tout. Il n'est pas béni, oui, oui, mais il est positif, c'est-à-dire qu'elle se relève. » Alors, j'en en dirai pas plus pour ménager le suspense. Mais donc, c'est l'histoire de cette femme. Elle fait du conseil. Elle a une vie à Paris assez classique. Mais elle vient du Sud. Et du coup, je voulais parler de la province aussi à travers ce roman. Ce que c'est que d'arriver dans une ville qu'on ne connaît pas, une grande ville, etc. Elle vient du Sud. Elle vit avec un type qui est parfait sur toutes les coutures. Et un jour, elle a une manager, femme, qui est un dragon, qui s'appelle Leslie. Et là aussi, je voulais que ce soit une femme, parce que je ne voulais pas tomber dans les caricatures. Oui. C'était important pour moi. J'ai horreur des stéréotypes et des caricatures, donc du coup, je ne voulais pas le faire. Et donc, cette femme, notamment, va la faire craquer. Et elle va craquer, et à travers son craquage et au-delà, elle va vraiment retrouver son chemin. Et je ne veux pas dire par là que toutes les personnes qui ont eu un burn-out, si tu veux, se révèlent à elles-mêmes, parce qu'il faut quand même être sérieux, c'est quelque chose d'hyper violent, hyper difficile. Donc je ne mets pas en avant exagérément la dimension spirituelle. Néanmoins, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit une chose, ça a été horrible, j'aurais préféré ne pas le vivre, mais dans ce que j'ai vécu, j'ai découvert une partie de moi qui ne partira plus, qui ne s'échappera plus. Et cette partie-là, je vais en prendre soin. Cette partie-là, c'est mon rapport à mon enfance. Cette partie-là, c'est mon rapport à mes valeurs. Cette partie-là, c'est mon rapport à l'art, comme tu es dans ce sujet. Et c'est vrai, ça m'a été dit. C'est mon rapport aux autres. Donc, il y a quand même quelque chose qui se révèle à travers cette extrême douleur et qui fait que le chemin d'après, il est un peu différent.
Magnifique, merci. J'ai hâte de le lire. En tout cas, ça me rappelle que moi, je n'ai jamais fait de burn-out. Mais il y a eu un moment très compliqué, il y a 2 ans peut-être, où j'étais dans un épuisement extrêmement intense et je ne m'autorisais pas à me l'avouer et à lâcher un petit peu, tu vois, les émotions, à lâcher corporellement et tout. Et il y a eu un lieu, quand j'ai passé la porte, qui m'a saisie et qui m'a fait tout remonter d'un coup, qui m'a fait pleurer, hein. Je suis rentrée, j'ai fondu en larmes tellement je me suis sentie bien dans cet endroit et tellement l'endroit m'a dit... Prends soin de toi, et un peu un endroit qui cajole. Devine quel endroit c'était quand je suis rentrée.
Une bibliothèque ?
Ouais, c'était une librairie. Ah. Je suis rentrée dans la librairie, il y a eu les petits clinquements d'un petit mobile, tu sais, le bruit, voilà. Et en fait, ça m'a pris. Je me suis sentie tellement bien, tellement au calme, et je me suis sentie tellement entourée de choses qui pouvaient me faire du bien, que j'ai complètement craqué, j'ai pleuré. Alors la libraire devait se dire, qu'est-ce qui lui arrive celle-là ? Mais je trouve que tout ce que tu racontes aujourd'hui, tout ce que tu mets en avant sur le pouvoir de la lecture, tous tes engagements et le récit de Maya qui s'est relevée, m'a rappelé cette anecdote.
Donc, c'est joli ce que tu dis. C'était une bibliothèque à Paris ou c'était...
Oui, c'était à Paris. C'était une librairie.
Ah, librairie, pardon.
C'est oui. Ça. Dans le quartier près de Montsouris. Je retrouverai le nom et je le mettrai dans la référence du podcast, évidemment. Une librairie jeunesse, mais pas que. Voilà.
C'est vrai qu'il y a des librairies, elles sont comme des temples. Tu sais pourquoi je dis librairie, bibliothèque ? Parce qu'en anglais, c'est library, donc c'est parfois vrai. Ça me... Mais que ce soit une bibliothèque ou une librairie, ce sont des lieux... incroyable. Ce qu'il y règne, en fait, la plupart du temps, c'est la beauté pure. Et c'est la paix, en fait, aussi.
C'est ça. Je pense que c'est ce qui m'a touchée.
C'est la paix.
La paix, effectivement.
La paix, et en ce moment, on en a quand même vraiment besoin. Je trouve qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de violence. Le moindre mot devient un sujet d'État, énormément de tension. Et juste parfois revenir à ces moments de préservation où l'âme, le cœur et l'esprit sont tranquilles, en fait.
Mais c'est vrai, par exemple, dans une librairie, on va pas parler fort.
Oui.
Alors que les libraires aimeraient peut-être que les personnes parlent avec un volume sonore comme partout.
C'est ça.
Mais non, on a ce besoin dans les librairies d'être comme dans les églises.
C'est doux. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en t'écoutant, là, je pensais à une de mes chansons préférées, c'est La Quête, en fait, de Brel.
Ok.
Et dans La Quête, il dit, à un moment donné, il dit « Où mon cœur serait tranquille ». Il le chante tellement bien. Et c'est ça, la librairie, la bibliothèque, c'est « Le cœur est tranquille ». Alors sauf quand tu es dans des grandes où il y a beaucoup beaucoup de monde, mais sinon tu trouves ça, tu le trouves pas dans beaucoup de commerces en plus, objectivement.
Je suis assez d'accord. On va terminer avec les 2 questions rituelles. La première est pour toi, qu'est-ce qu'être artiste ?
Ah, quelle belle question. Être artiste, c'est révéler au monde l'histoire de sa propre humanité.
Magnifique. Et si tu devais me présenter une passionnariat, donc une femme du monde des arts qui est féministe et artiste à la fois, ou en tout cas qui s'engage dans les arts, qui me mentionnerais-tu ou qui me présenterais-tu ?
Une artiste féministe, je présenterais Caroline Vigneault. Elle est humoriste, oui, tu la connais ?
Alors je la connais pas personnellement, mais je vois très bien qui c'est.
C'est une femme que j'ai rencontrée au gala des 10 ans d'ONU Femmes France l'année dernière.
Génial.
Et je l'ai trouvée géniale, elle est hyper brillante et hyper drôle. Et voilà, c'est une fille, vraiment une femme que je t'invite à convier. Et vraiment, tu ne seras pas déçue.
Eh bien, merci, j'y manquerai pas. Bonne soirée,
merci
Céline.
Merci beaucoup,
et merci
pour l'invitation.